Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Marlon Brando 1. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Marlon Brando 1, effectivement, il est assez important dans l'histoire du cinéma que cet acteur extraordinaire. Et donc, nous faisons deux émissions sur lui. Alors, tout le monde connaît Marlon Brando, au moins à cause de son rôle dans Vito Corleone, dans Le Parrain. Et il a souvent été montré ce film, montré, remontré, et il garde une perfection. C'est Coppola qui l'a réalisé, comme il fera ensuite Apocalypse Now avec Brando à nouveau. Et Le Parrain, c'est un moment où l'étoile de Marlon Brando est en chute. Il a connu une célébrité mondiale, puis pendant une dizaine d'années, il a baissé dans l'appréciation du public, dans l'appréciation des producteurs. Et pourtant, ce rôle de mafieux va le faire remonter au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'Oscar. Alors quand j'évoque les hauts et les bas dans la carrière de Brando, on peut dire que c'est à cause de sa personnalité. Mélange d'excessivité, de domination. Il est un des acteurs qui a révolutionné le jeu de l'acteur. Il a porté au plus haut un mélange d'instinct, un mélange de réflexion. Cet instinct, cette réflexion est originale et est due notamment, on y reviendra, à la méthode de l'acteur studio. Alors Marlon Brando, je disais que c'est un acteur exceptionnel. Pour beaucoup, c'est même l'acteur par excellence, dont le meilleur acteur au cours du 20e et du 21e siècle. Ce serait Brando. Alors, pourquoi consacrons-nous deux émissions? Parce qu'effectivement, il y a l'évolution de carrière et il y a aussi quelques œuvres à mettre à part et à évoquer. Alors, quand j'ai songé à faire une émission sur Brando, j'ai regardé dans une partie de ma bibliothèque consacrée au cinéma et j'ai trouvé plusieurs livres sur Brando. Certains dont je me rappelais, d'autres que j'avais oubliés. Vous allez me dire pourquoi consulter des livres. À quoi servent les livres quand on peut consulter 10 secondes Wikipédia? Eh bien, déjà le texte. Quand vous avez un livre 500 pages, Wikipédia correspond à 2 ou 3% du texte. Et donc, c'est catastrophique. C'est une simplification. Et puis, vous n'y pensez pas toujours, il y a l'odeur. Eh oui, allez dans votre libraire préféré, chez votre libraire, et ouvrez un livre, approchez votre nez. Ce n'est pas toujours le cas, mais vous avez un parfum indéfinissable. Et un pléiade n'a pas l'odeur d'un livre de poche. Bon, allez, j'arrête ma digression. Donc, de très nombreux livres consacrés à Brando, des notules dans différents dictionnaires. Bon, parfois, j'en citerai quelques-unes tout de suite ou plus tard, mais je ne veux pas à chaque fois y revenir et citer les références des auteurs. C'est tout à fait inutile. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme remarque dans des dictionnaires du cinéma? Marlon Brando, monstre sacré du cinéma lié à l'histoire du cinéma américain depuis 1945. Il prend ses distances avec Hollywood et exige des cachets énormes pour quelques minutes de cabotinage. Autre remarque, l'expression « monstre sacré » lui va à merveille et on cherche derrière l'homme vieilli, bouffi, sombre, amer, le magnifique Marc-Antoine de Jules César. Brando a été le plus beau des acteurs hollywoodiens. Donc vous voyez déjà, c'est extrêmement positif. Mais en montrant aussi le côté noir du personnage. Autre remarque, quand Kazan, qui a tourné 3 films avec lui au début de sa carrière, qui l'a révélé en quelque sorte au cinéma, Kazan voit en Brando le meilleur acteur du monde. L'importance de Marlon Brando est unique, il représente, et avec quelle intensité, une nouvelle façon d'être, de se sentir. Et alors sur la fin de carrière, prenons une remarque, acteur de composition à la structure physique et intellectuelle monumentale. Par la suite, le comédien peut alors révéler son mépris pour l'industrie qui le fait vivre, souligner ses positions en faveur de l'écologie et accentuer sa solitude. Sa contestation individualiste, mais universellement répercutée, n'est pas celle d'un aigri. Donc, vous voyez comment on va mettre en avant Marlon Brando et placer en position de supériorité. Alors, position de supériorité qui va à la fois susciter des compliments très catégoriques, mais aussi des critiques extrêmement violentes, notamment pour ses caprices. Il va être considéré comme un des plus capricieux sur le plateau, à s'opposer à des réalisateurs, à ne pas s'entendre avec eux. Alors, je parlais d'Elia Kazan. Il a tourné 3 films avec lui et un de ses films, c'est Viva Zapata. Voici un extrait de la musique de Viva Zapata. Alors, évoquons les points forts de sa carrière. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. La prochaine fois, Marlon Brando 2, ce sera plutôt des films qui seront sélectionnés arbitrairement. Alors, les points forts de la carrière. Bon, laissons tomber l'état civil. Simplement, il est né en 1924. Une famille assez perturbée, des parents qui avaient différents problèmes. Donc, lui-même va échapper à cela, mais à mon avis, il sera quand même marqué par cette perturbation quand il était plus jeune. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est d'abord la méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode ? Ce serait pourquoi et comment Brando occupe ce piédestal. La méthode, c'est l'Actor Studio. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Actor Studio et la méthode ? La méthode est venue de Russie. C'était une manière de renouveler la technique de jeu. Et elle a été reprise aux États-Unis à la fois par Lee Strasberg et Stella Adler. Alors, la méthode a formé beaucoup d'autres acteurs. On pourrait citer Meryl Streep, De Niro, Al Pacino, Sean Penn. Alors, la technique de la méthode, c'est de dire à l'acteur, il faut puiser dans vos émotions passées, dans les émotions que vous avez ressenties, pour faire exister un rôle. Donc, on doit se plonger dans le personnage au maximum et étudier toute sa dimension psychologique. Alors cela, certains metteurs en scène ne l'apprécient pas. Alors pour vous donner un exemple, je dirais à contrario de la méthode, vous avez Le rideau déchiré de Alfred Hitchcock et Paul Newman. Paul Newman fait partie, comme cette génération, de ceux qui ont étudié l'Actor Studio. Il va demander à Hitchcock des précisions psychologiques sur le personnage. Qu'est-ce que faisait le personnage quand il était plus jeune? Comment a-t-il évolué? Quels sont ses sentiments de manière générale? Donc, il demande à Hitchcock de lui présenter un portrait général du personnage afin de s'adapter à celui-ci. Et Hitchcock a dit, je caricature, vous m'énervez, moi je vous demande simplement de jouer, d'agir de telle ou telle manière, c'est-à-dire que vous devez ouvrir cette porte, vous êtes ici, vous tournez là, vous faites un sourire, vous avez un regard interrogatif, Et c'est tout ce que je vous demande. Donc, il n'a plus retourné avec Paul Newman, parce que Paul Newman appliquait la méthode et voulait donc tout un tas de précisions sur le personnage pour mieux le travailler et mieux le rendre vivant. Donc, l'Actor Studio forme pas mal d'acteurs. Alors, Brando, parfois, rejette la méthode en disant « oui, je ne l'ai pas tout à fait appliquée ». Bon, en réalité, peut-être qu'il est un petit peu à côté de la méthode, mais il va absolument en tenir compte. En effet, tout son jeu est fondé sur cette intériorisation du personnage, intériorisation, l'acteur reprenant ses propres émotions. Donc, c'est un acteur aussi qui va changer de voix suivant les films, donc ça c'est assez rare. Il a des personnages de Mexicains, d'Asiatiques, etc. Et même sur le Sud ou sur le Nord, il va utiliser des accents différents pour les États-Unis. Donc vraiment un investissement très fort dans le personnage et le recours à ces souvenirs que le personnage peut avoir, faire ressurgir les émotions. Et quand parfois, comme je vous le disais, il rejette cette tendance à avoir vraiment tout appris l'Actor Studio, vraisemblablement, il a raison, il n'a pas tout appris, il y a quand même l'originalité dans son premier rôle. Son premier rôle véritable au théâtre, il avait joué une fois avant, mais ce n'était pas grave, ce n'était pas important. Donc, le premier rôle au théâtre, c'est « Un tramway dans mes désirs ». Il va être révélé lorsqu'il a à peine 24 ans, c'est-à-dire assez jeune. Et qu'est-ce qui va attirer le spectateur? Qu'est-ce qui va l'intéresser? C'est qu'au lieu de jouer comme un acteur de théâtre, en posant sa voix, en articulant, en lançant le son assez loin pour le dernier spectateur, lui, il va grommeler, il va mal articuler, il va s'arrêter, il va avoir des silences, il va se reprendre. Donc, une manière de donner, je dirais presque une manière plus naturelle, plus proche de la vie quotidienne. Sauf que ça révolutionne le théâtre dans la mesure où on ne joue pas habituellement autant avec ses silences, son articulation, le mouvement de son corps. Et cela, c'est quand même ce qu'il aura tiré de l'Actor Studio. Quoi qu'il en soit, donc, c'est une méthode qui va le caractériser et qui va faire de lui un des représentants les plus importants de la méthode, même si on en a d'autres, encore une fois, j'ai cité deux ou trois, mais il y en a de nombreux autres. Alors, j'ai parlé de Un tramway dans mes désirs. Brando va débuter au théâtre dans le rôle de Stanley Kowalski dans Un tramway dans mes désirs. Et il va nourrir donc le personnage avec ses émotions et il va en fait avoir un rôle pas toujours sympathique où il va mépriser, manipuler une actrice, enfin, manipuler l'actrice, le personnage qui joue par Vivian Leigh, et en introduisant un certain nombre de pulsions, de névroses. Alors, effectivement, ici, ce qu'on peut dire, c'est que personnage est marqué par une forme de violence physique et psychologique. Et ce qui va marquer le public, c'est que par la suite, il va y avoir un film et on aura Brando comme poster en t-shirt déchiré qui marquera son machisme, son masculinisme poussé, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, mais qui aujourd'hui apparaîtrait très ambigu dans la mesure où ça renvoie quand même à une forme de violence de l'individu. Donc, dans un contexte MeToo, il ne serait peut-être pas très apprécié. On verra plus tard qu'effectivement, il a toujours été assez manipulateur ou assez violent avec les femmes. Quoi qu'il en soit, donc, Le tramway dans mes désirs, c'est un succès théâtral et c'est un succès au cinéma. Je disais qu'il va tourner deux autres films avec Kazan, il tourne trois films avec lui. C'est Viva Zapata, c'est Sur les quais. Mais entre-temps, il va jouer dans L'équipée sauvage. L'équipée sauvage dont on va écouter la musique maintenant.
C'était un dimanche matin. Avec les copains, on avait envie de se changer les idées. Thank you.
Un tramway non désiré au cinéma, Viva Zapata au cinéma, Sur les quais au cinéma, et L'équipe est sauvage, donc dans lequel un groupe de motards va envahir une petite ville, va ressemer le trouble. Donc je précise ici que je fais une approche globale, donc je cite des films que je reprendrai dans Marlon Brando 2 de manière plus développée. Donc ici, chacun des trois films a son originalité, que ce soit le film historique Viva Zapata, le film d'Appel à la paix de Tennessee Williams, Un tramway dans mes désirs. Il faut préciser d'ailleurs que la pièce comprend ses pulsions, ses ambiguïtés, son aspect social, qui est propre à Tennessee Williams. Donc Tennessee Williams a insufflé cette originalité particulière dans ses pièces de théâtre. Il y en aura d'autres qui sont adaptées aussi au cinéma. Et on peut dire que Kazan a repris cela et l'a poussé un petit peu pour le cinéma. Mais ça correspond tout à fait à cette originalité du dramaturge Tennessee Williams. Alors après cela, il va renverser son image. C'est-à-dire que jusque-là, on le voyait marmonner, prendre des silences, etc. Et il va s'attaquer à un classique. C'est le réalisateur Joseph Mankiewicz, qui est un réalisateur, on pourrait dire, un des plus intellectuels d'Hollywood, qui adapte Jules César, où Brando joue le rôle de Marc-Antoine. Donc, important, mais le film est réussi et rencontre un succès. Alors, il faut relever quand même un film original qui s'appelle Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Bon, une formule un petit peu originale, on se demande ce que c'est. En réalité, c'est une comédie musicale. Une comédie musicale avec Frank Sinatra. Donc, les deux acteurs ont chacun une personnalité. Bien sûr, ils vont se heurter et ils ne vont pas véritablement s'apprécier. Et ce qui frappe ici, c'est que Marlon Brando cessait à chanter dans ce film Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Je voulais essayer de vous montrer un aspect de son talent qu'on ne connaît pas. Voici un extrait de Blanche Colombe et Vilain Messieurs, chanson Brando.
You remember that tune pretty well.
It keeps running through my heart.
It's got words, you know.
Something about amour, amour, I'll bet.
It's about you. About you right now.
Your eyes are the eyes of a woman in love. And oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love? When I know very well what I say no moon in the sky ever lent such a glow. Some flame deep within made them shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine, tenderly gaze evermore into mine.
And what about you? It's got you too. Your eyes are the eyes of a man who's in love.
That
of a man who's in love.
Woman in love.
And may they gaze evermore into mine. Crazily gaze evermore into mine.
On peut dire que déjà à la fin des années 50, ou dans la seconde moitié des années 50, son étoile va baisser. Il participe déjà à des films qui sont des films mineurs, ou qui n'ont pas de grand succès, ou les deux. Et comme toujours, quand il n'y a pas d'entrée, la cote va baisser. Alors, il y a par-ci par-là un film qui peut être intéressant, mais un grand nombre ne sont pas tellement réussi. Alors il y a le Bal des Maudits où il fait officiellement qui est un film original puisqu'il est d'Edouard Mitry qui est un acteur, qui est un réalisateur assez connu à l'époque, qui a fait L'Homme au col d'or notamment. Et par la suite, donc première moitié des années 60, c'est pas terrible non plus, ça reste très très limité. Deuxième moitié des années 60, peut-être un film à sauver ou deux films à sauver pendant cette période. Donc on peut dire que petit à petit, Marlon Brando va descendre et va connaître une mise à l'écart. Alors il tourne à cette époque-là entre deux films qui ont moins de succès. La Vengeance aux deux visages, 1961, son seul film qui est un western. Alors ce film, j'en parlerai tout à l'heure. Ce qu'on peut simplement relever, c'est qu'il y a une baisse dans la cote de popularité, la cote financière de Brando, comme je le disais. Et puis, tout d'un coup, heureusement, vint Le Parrain. Et Le Parrain, c'est vraiment le film qui va le refaire monter en selle avec une réussite financière, une réussite artistique, couronnée par un Oscar. Donc, Le Parrain va vraiment mettre en avant le nouveau visage de l'acteur Brando, qui là encore, il ne faut pas l'oublier, il applique la méthode, il se cache derrière le personnage. Si on connaît Brando et les photos, vous regardez Le Parrain, mais ce n'est plus Brando, c'est Le Parrain, c'est Vito Corleone. Donc ça, c'est un aspect fabuleux de ce comédien, caméléon, qui arrive à intégrer un personnage et à se glisser derrière le personnage, mettre le personnage en avant. Donc c'est vraiment une réussite. Après, en suivant, il y a un film polémique, Le Dernier Tango à Paris. Là encore, avec Me Too, ça poserait des problèmes. Il y a des scènes qui sont, pour l'époque, assez choquantes. Et le film connaît un succès de scandale. Ça nous conduit à évoquer un élément de Brando. Alors, je ne vais pas évoquer la vie privée de manière détaillée, mais Brando a une vie intime débridée. On lui prête des conquêtes féminines par dizaines ou même par centaines. Et aussi masculine. Alors cette idée de bisexualité, comme toujours, au moment où ça se passe, on n'en parle pas, mais on en parle avec le recul. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que ça s'est posé aussi pour Cary Grant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On a des doutes, on a une information par tel ou tel journaliste, donc c'est délicat à relever. Quoi qu'il en soit, Marlon Brando continue sa carrière et va tourner Les Révoltés du Mounty. Ça se tourne en Polynésie française et un atoll à côté de Tahiti va le séduire. Il va l'acquérir, c'est Tetiaora. Donc, depuis les années 80, Brando s'installe dans cet atoll et il va déjà, dans la deuxième moitié des années 80, être en position, on pourrait dire, de surpoids. Donc, ça pose des problèmes pour des tournages, comme pour Apocalypse Now, où discussion avec Coppola a pris beaucoup de temps. Il a été filmé dans l'ombre, comme ça on n'évoque pas sa silhouette. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, entre autres, c'est le seul film filmé par Marlon Brando, réalisé par Brando, qui s'appelle La Vengeance aux deux visages. On va écouter la musique de La Vengeance aux deux visages.
Thank you.
La vengeance aux deux visages, donc j'en ferai la transition vers Marlon Brando 2, le seul film réalisé par Brando, dont un western. Alors ce qui s'est passé pour la préparation de ce film, comme pour de nombreux films Marlon Brando, il y a des discussions, il y a des débats sur le scénario, sur la réalisation, comment faut-il faire, comment faut-il agir. Donc, des discussions, et finalement, à l'arrivée, Marlon Brando décide de réaliser le film lui-même. Alors, les producteurs ne sont pas obligatoirement satisfaits. Ils surveillent de près le tournage, comme souvent avec Brando, ce qui peut impliquer 3 minutes de débat va prendre 2 heures. Donc, le retard pendant le tournage est très long, et ce qui fait que le film a une arrivée chez les producteurs de manière assez critique. Alors, quel est le sujet global du film? En fait, Marlon Brando et Carl Malden sont deux bandits. Au début du film, Marlon Brando sera arrêté et Carl Malden s'échappe et le laisse seul. Donc, il va vouloir se venger, d'où la vengeance aux deux visages. Mais le titre du film réel est plus subtil, c'est One Eyed Jack. Ça fait référence à une carte, et une carte, un jeu de cartes, à une double face. Donc c'est ça, One Eyed Jack, mieux que la vengeance aux deux visages. Ça parle beaucoup plus. Donc quoi qu'il en soit, Marlon Brando arrive dans la ville où il peut trouver Carl Malden, sauf que celui-ci est devenu shérif, a fondé une famille, et il hésite, le shérif, sur l'attitude à adopter. Que doit-il faire ? Est-ce qu'il va conserver un bon rapport à Brando, lui demander de partir, se soumettre à lui, discuter? Et Brando va essayer de séduire en particulier sa fille pour se venger de Carl Malden. Donc un western original où il y a même une dimension de violence sur sadomaso, si je puis dire, ça arrive souvent chez certains acteurs. Il va à un moment donné se retrouver battu, violenté, et notamment sur sa main. Donc on va abîmer sa main. Toujours pareil, c'est le problème de tenir ensuite un colt avec une main abîmée. Il va guérir au fond d'une caverne, puis il va revenir. Donc Brando, avec ce film, réussit quelque chose d'original, même si les producteurs sont intervenus pour le montage. Il faut savoir, en effet, c'est une différence entre la France et les États-Unis. En France, il y a un droit moral sur l'œuvre, dont le réalisateur a le droit de regarder son œuvre, de la monter. Il a ce qu'on appelle le final cut. Par contre, aux États-Unis, dimension ultra-libérale, c'est le producteur qui a tous les pouvoirs et le réalisateur ou l'acteur ne peut rien faire, sauf s'il a négocié dans le contrat pour les grands réalisateurs qui n'obéissent pas au producteur. Donc ici, le montage lui échappe et pourtant, malgré cela, le film est vraiment réussi, ambigu, et ce qu'on appelait dans les années 60 un sur-western, c'est-à-dire un western avec une dimension qui est une dimension psychologique. Voilà, donc Marlon 1 terminé et Marlon 2 à venir sur quelques films sélectionnés. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Touroult. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.